Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Qui a dit qu'il fallait attendre le prince charmant ou la princesse charmante pour avoir des enfants ? L'adage « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » est tellement loin de l'évolution de notre société. Les compositions familiales de nos générations sont multiples et variées. On s'affranchit des règles dans lesquelles nous avons été éduqués et qui ont prouvé leur défaillance pour vivre avec plus de liberté. Nous déconstruisons des idées reçues quotidiennement et vivons passionnément au sein de nos familles colorées. Hélène a, elle aussi, dû déconstruire pour atteindre son rêve. Et d'ailleurs, elle continue à déconstruire, autour d'elle et en elle. Elle le dit très bien, un jour elle a compris. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de la rencontre parfaite pour concevoir un bébé, mais qu'elle pouvait devenir maman et ensuite rencontrer son âme sœur. Elle a compris surtout qu'il ne fallait pas qu'un couple pour élever un enfant, mais plusieurs personnes qui comptent. Alors quand elle a intégré tout ça, c'est avec tout son village qu'elle a construit son projet et qu'elle a donné naissance à sa petite Garance. Hélène s'est rendue au Danemark, pays choisi et convoité, qui permet l'accès à la PMA aux femmes seules. Son parcours est un parcours que nous connaissons toutes, fait de montagnes russes émotionnelles, et là encore, c'est son village qui l'a accompagnée pour les surmonter. Je vous laisse découvrir cette histoire tendre et émouvante d'une maman qui a choisi de ne pas attendre de rencontrer son compagnon de vie pour rencontrer son bébé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible aujourd'hui pour cet entretien.
Bah, pas de problème, ça me fait aussi très plaisir.
En fait, tu es venue vers moi pour me raconter ton parcours, je crois que c'était il y a quelques semaines, et tu as un parcours qui est très intéressant à mon sens parce qu'on n'a pas encore traité de ta composition familiale et on n'a pas non plus traité du lieu de ton parcours. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à développer un petit peu le type de parcours que tu as pu mener. J'aimerais bien aussi creuser le pourquoi. Tu es arrivée à ce cheminement-là, et puis le lieu de ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, te présenter et me raconter ton histoire ?
Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je m'appelle Hélène, je suis la maman de Garance, qui a 10 mois, et que j'ai conçue toute seule en allant dans une clinique au Danemark. Donc voilà, c'est peut-être ça que tu voulais aussi aborder, effectivement.
Exactement.
Donc mon parcours, il a débuté déjà il y a quelques années. Donc pour revenir sur le plus long terme, j'ai toujours su que je voulais être maman. Et alors assez classiquement, en fait, je suis hétéro et je cherchais le prince charmant qui est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais ça n'a jamais finalement été le bon pour construire une famille. Le temps est passé et en fait, mon désir d'être maman a toujours été présent. Et puis, il y a eu un petit déclic en fait en 2017. Et je pense que ce déclic, il est lié à plusieurs choses. En termes actualité française, c'était les discussions sur les prémices de discussion sur la loi de PMA ouverte à toutes les femmes en France, qui en fait ont mis une petite graine dans ma tête. Et puis beaucoup plus concrètement, en fait, j'ai deux sœurs. Alors je les présente tout de suite parce que je vais peut-être beaucoup en parler, Nathalie et Aurore, mes deux petites sœurs. Et donc Nathalie, en fait, est devenue maman en 2017 de ma nièce. Et en fait, je pense que ça a concrétisé encore plus mon envie d'être maman.
D'accord. Donc, si je retiens quelque chose de ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, on peut en déduire que le prince charmant n'est pas forcément le parent idéal.
C'est ça.
Mais qu'en tout cas, tu as eu la volonté de poursuivre tes rêves de maternité qui, eux, ne se sont jamais atténués, en fait.
En fait, c'est ça. C'est ce que je me suis dit à un moment, je vais pas attendre après l'arrivée de quelqu'un pour devenir maman, parce que c'est du coup me rendre dépendante en fait de l'arrivée de quelqu'un. Et puis l'âge passait. Ce que je me suis dit, c'est en fait quelqu'un va arriver dans ma vie. J'espère d'ailleurs toujours que quelqu'un arrive dans ma vie à un moment. Mmh. Et puis je vais lui mettre tout de suite la pression parce que le temps passe et que on sait maintenant de plus en plus que la fertilité des femmes descend à partir de 35 ans. Oui. Et en fait, j'avais pas envie de cette pression, de ce stress. Et j'avais envie de vivre mon parcours, voilà, et de devenir maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à mettre des mots sur cette envie. Mmh. Et puis à en parler à mes plus proches, donc ma famille et mes amis les plus précieux, on va dire, pour avoir en fait un peu un ressenti général de cette idée. Est-ce que j'étais complètement folle ou est-ce que c'était logique et entendable? Et en fait, c'est vrai que les réactions ont été plus que bienveillantes, plus que positives. Et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment lancée dans le parcours.
D'accord. En tout cas, pour toi, c'était quelque chose qui te semblait clair, en fait, assez faisable, et ça a pas été, enfin, t'as pas eu une démarche de réflexion intense pour en arriver à cette solution-là.
En fait, non, il n'y a pas eu une réflexion intense, et il y a vraiment eu un déclic. C'est-à-dire que la veille, j'aurais dit, bah non, bien sûr que non, je vais attendre la bonne personne. Et puis, un peu du jour au lendemain, en fait, mais bien sûr que si, je peux faire ça toute seule. En tout cas, le monde médical me permet de le faire. Mmh. Quand je dis toute seule, c'est pas vraiment toute seule parce que il y a quand même toute une panoplie de gens absolument indispensables autour de ce parcours, mais dans le sens où toute seule, en tant que maman solo par choix.
Effectivement. Oui, complètement. Mmh. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que c'est très important. Enfin, on se rend compte hein, que finalement, ces discussions sur et autour de la future loi bioéthique, alors bon, en 2017, on en était pas sur cette version-là, ouais. Mais finalement, en fait, ça permet aussi de vulgariser les possibilités que l'on a de pouvoir devenir parent.
Tout à fait. Moi, ça a vraiment un peu ouvert le champ des possibles en me disant, mais en fait, j'ai pas besoin d'attendre la rencontre qui fera que je pourrai devenir mère. Je peux devenir maman et rencontrer quelqu'un après, parce que voilà, ce qui est toujours d'actualité.
Tout à fait, je me doute. Et donc, tu dis que ton entourage a bien accepté cette idée.
Oui.
Et qu'en plus de ça, ils t'ont accompagné. Tu peux m'en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, ma famille, mon noyau familial, c'est ma maman et mes deux sœurs. Mm-hmm. Et puis, des amis proches. Donc, c'est les premières personnes à qui j'en ai parlé. Donc, c'est vrai que les premières réactions ont été un peu « t'es sûre? Est-ce que tu veux pas attendre encore un peu une rencontre ?»
Quelles étaient leurs craintes à ce moment-là?
En fait, je pense que les craintes, c'est la vie de maman toute seule, parce qu'on a toujours l'image de la maman célibataire un peu qui subit en fait la séparation avec le conjoint, qui se retrouve du coup dans une situation difficile. On entend souvent les chiffres en fait des mamans isolées, enfin le terme d'ailleurs même de parents isolés, qui va être dans une difficulté financière, une difficulté à assumer l'entièreté de la parentalité. Mmh. C'est vrai que c'est quand même lourd de conséquences. Et dans mon parcours, moi, ce que j'ai fait avant de me lancer plus dans les démarches, c'est que j'ai lu beaucoup sur comment vont, ça fait tout à fait écho au podcast, mais comment vont les enfants qui ne s'inscrivent pas dans le schéma classique familial, les enfants issus d'un don, qu'ils soient d'ailleurs élevés dans un couple hétéro ou homo, et les enfants dans les familles monoparentales. J'ai essayé d'enrichir ma lecture des retours de psychologues, etc., pour me dire qu'en fait, ces enfants vont globalement bien tant qu'on leur dit la vérité. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencée.
Et que les parents vont bien aussi, parce que finalement, la différence que tu soulignes, c'est qu'il y a une différence claire entre la maternité solo subie, ou la parentalité solo subie, la parentalité solo assumée et anticipée.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est je choisis d'être maman solo. Jamais quelqu'un, en fait, va me briser le cœur et nous abandonner, moi et mon enfant. J'aurais pas à gérer cette tristesse-là, l'abandon aussi par rapport à l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés par un de leurs parents. Comment expliquer ça après à l'enfant? Moi, le seul discours que je pourrais avoir pour ma fille, c'est « je t'ai fait parce que je t'aimais avant même que tu existes ».
Oui, complètement. Et alors, quand tu as donc le retour de tes proches concernant ta potentielle maternité solo, oui. À ce moment-là, tu avais déjà commencé à te renseigner sur le comment ou pas ?
Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet comment on fait pour faire un bébé toute seule. Et alors là, je suis tombée sur pas tant d'articles que ça, où c'était... En fait, les premiers résultats qui sont revenus dans mes recherches, c'était beaucoup la Belgique et l'Espagne.
Oui, classique.
Voilà, classiquement, parce que c'est les pays proches, accessibles, on va dire, en transport, même en voiture. Aussi, en termes de budget, forcément un peu moins cher, puisqu'on peut y aller plus facilement. Mmh. Et très vite, je me suis confrontée à une réflexion du coup d'un autre niveau, qui était quid du donneur. Et en Espagne et en Belgique, on a des donneurs, comme en France, des donneurs anonymes, qui le restent, a priori. Mmh. Alors qu'en élargissant un peu mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible d'avoir des donneurs, ce qu'ils appellent ouverts, donc qu'on pourra contacter à 18 ans, enfin, quand l'enfant aura 18 ans, s'il le souhaite, il pourra avoir les coordonnées de son donneur.
Complètement. Et ça, c'est valable. Alors, j'ai découvert il y a peu que ce n'était plus valable pour la Belgique récemment, ils ont changé la loi.
Oui, en Belgique, c'est pas possible, sauf... il y a quelques années, je crois que c'était le cas, mais c'est plus possible aujourd'hui. L'Espagne, c'est pas possible non plus. Du coup, c'est là que j'ai un peu élargi mes recherches et que je suis tombée sur le Danemark, qui propose ça. Et en fait, c'était d'autant plus légitime que les banques de sperme européennes, enfin la banque de sperme européenne d'ailleurs, et la grosse autre banque de sperme Kreos, sont basées au Danemark. Et c'est vrai que... En fait... Très simplement, je me suis dit que c'était là qu'il fallait que j'aille.
Oui, c'était une évidence pour toi.
C'était un peu une évidence. Déjà, l'attrait du pays par rapport à la culture du bien-être et de la bienveillance, ça m'avait beaucoup attirée.
C'est clair. Bon,
le froid, un petit peu moins, j'avoue. Mais, et puis aussi, en termes de physique, c'est un peu tout bête, mais moi, je suis plutôt grande et blonde. Et donc, je me suis dit, le Danemark, ça colle bien. Et donc après, fois avoir choisi ça, il reste encore beaucoup de réflexions, c'est-à-dire quelle clinique, parce qu'il y en a énormément. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé deux supports d'information très importants. Donc j'espère que je peux les citer, si ça ne dérange pas. C'est le forum Faire un bébé toute seule, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Il y a une entraide phénoménale sur ce forum dans lequel j'ai beaucoup participé au moment de mon parcours. Et puis l'association Maman Solo, qui aussi a beaucoup aidé, alors dans une moindre mesure au moment de cette partie-là de mon parcours, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnante dans mon quotidien.
Oui, tout à fait. Non, c'est très bien. C'est parfait de les avoir cités parce que je pense que ça va servir à d'autres auditeurs et je le remettrai en lien de l'épisode pour que
vous
puissiez retrouver les liens parce que c'est très important d'être accompagné. Tu parles du fait que tu as eu l'accompagnement de tes proches, mais il y a aussi cet accompagnement-là qui est important pour savoir où mettre les pieds finalement.
Tout à fait, parce que l'accompagnement de mes proches, c'était un soutien, mais c'était pas eux qui allaient faire les démarches, en fait, d'aller regarder les avis sur les cliniques, de savoir combien ça coûte, quel examen il faut faire. C'est vrai que tout ça, ça a été assez long. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tournée d'abord vers mon médecin traitant ici pour savoir un petit peu, tâter le terrain, on va dire. Et c'est elle-même qui a abordé la question de la PMA en solo. Alors, sans forcément me soutenir vraiment, mais en me disant qu'elle pouvait au moins me prescrire déjà un premier bilan de fertilité. Et ça, c'était en 2018.
Oui, c'est chouette. Après, c'est vrai que je pense que, pour le coup, tu subis moins, entre guillemets, ta situation, puisque ça parle plus au corps médical, le fait d'être maman solo et de ne pas forcément être en couple avec une personne de même sexe. Donc, peut-être que l'accompagnement est plus simple, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, on m'a souvent posé la question dans mon parcours, est-ce que j'étais vraiment seule ou alors est-ce que j'avais une conjointe ? Voilà, donc mon parcours, j'ai toujours été honnête en fait avec tous les médecins que j'ai pu voir, on pourra en reparler, il y en a eu plusieurs, des bons et des beaucoup moins bons. C'est vrai que j'ai toujours été honnête parce que je me voyais pas me faire accompagner sans être totalement transparente sur pourquoi en fait je faisais ces démarches.
Oui, complètement. Et puis, c'est important aussi dans la suite de l'histoire, en final, d'être transparent avec soi-même, c'est être droit dans ses bottes et pouvoir ensuite expliquer son histoire à son enfant.
Oui, tout à fait. Très important pour moi de toujours dire la vérité, donc à Garance, et puis à tous les gens qui m'entourent, que ce soit les collègues de travail, à la crèche maintenant. En fait, pour moi, c'est important de préciser la situation et vraiment de montrer que c'est... Un schéma familial qui n'est certes pas classique, mais...
Qui est existant.
qui est existant, voilà.
Alors, tu te fais accompagner par ces deux forums. Quel choix t'aide-t-il à faire ? Parce que donc, toi, tu étais bien arrêté sur ton donneur semi-anonyme ou ouvert. Donc, oui. Du coup, évidemment, sur le Danemark. Comment il t'aide ? Quels documents ils te fournissent ? Enfin, qu'est-ce qu'ils t'apportent ?
En fait, c'est surtout des témoignages d'autres mamans ou futures mamans. Des retours d'expérience, de savoir comment ça s'est passé. En fait, la première, je sais pas si du coup si je peux redétailler, mais
bien sûr,
il y a eu déjà des retours d'expérience sur pas mal de cliniques, savoir comment était l'accueil, est-ce qu'on s'y sentait bien, pas bien. Également sur le choix du donneur. Au début, j'étais partie sur OK, on peut choisir le donneur. Il y a en fait comme un catalogue où on voit les photos des donneurs quand ils sont bébés, on peut écouter leur voix. On peut lire des lettres qu'ils ont laissées sur pourquoi ils ont été faire un don de sperme. J'ai commencé à faire une sélection. Je me suis aidée aussi de mes proches, de ma famille, en disant qu'est-ce que tu penses de tel ou tel profil. Et en fait, tout ça a été un peu trop. J'ai eu l'impression en fait de devoir choisir quelqu'un alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un bébé, mais pas du tout choisir le donneur, de savoir s'il préférait les chats ou les chiens à la limite. Sans plus, quoi. Donc voilà.
Des fois, c'est plus simple de ne pas avoir le choix.
Oui, ouais. Donc c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait de ne pas avoir le choix. Et en parlant, voilà, notamment sur le forum faire un bébé toute seule, j'en suis venue moi à la conclusion de laisser finalement la clinique choisir. Et pour choisir la clinique, là pareil, j'ai pris les retours d'expérience des autres mamans et je me suis tournée vers la clinique Vita Nova, qui proposait à l'époque des réunions en présentiel à Paris, donc où j'ai pu me rendre. Et en fait, elle présente une sage-femme de la clinique co-présente avec quelqu'un de la Banque de sperme européenne. Comment déjà les donneurs sont choisis, quel est tout le protocole en fait de sélection. Donc on apprend que sur tous les donneurs potentiels qui viennent, à la fin il y en a que moins de 5% qui sont retenus pour être vraiment donneurs.
D'accord.
C'est hyper intéressant avec les bilans de santé qu'ils font, mais aussi les bilans psychologiques, l'historique familial, les maladies génétiques, etc., la qualité du sperme. Et donc, on était un peu assurés d'avoir des bons donneurs à la
fin. Top gunners.
Ouais, et puis la clinique qui expliquait, qui a fait une présentation des salles dans lesquelles ça se passe, de l'accueil qu'on reçoit, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a convaincue et c'est vrai que moi, je me suis donc tournée vers la clinique, vers Vita Nova. Après, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien, je pense, à Copenhague.
C'est super de faire des réunions. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre parce que moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'enregistre des épisodes sur lesquels on précise que ça existait. Ouais. Mais je trouve ça super parce qu'en plus de ça, ils vous mettent en situation de confort quand ils viennent sur place dans votre pays, en l'occurrence donc en France. Mm. Ils s'adaptent à la langue, ils vous accompagnent. Enfin, on est beaucoup moins stressé par un environnement qui n'est pas commun ou courant.
Tout à fait. Ouais. Et puis du coup, on voit qu'il y a d'autres personnes. Alors, il y avait d'autres femmes. Seul, il y avait beaucoup de couples de femmes et même des couples hétéros en fait qui, je pense, sont arrivés au bout de leur parcours en métropole, enfin en France, et qui du coup se tournent vers des pays étrangers ou alors peut-être parce que c'est pas assez j'allais dire rapide, je sais pas si c'est le mot, mais que les délais sont trop longs en fait ici et que du coup ils se tournent vers les autres pays. Peut-être.
Complètement. Est-ce qu'à ce moment-là, dans les réunions qu'on vous fait, on vous parle budget ou pas du tout ? Ça fait partie ? Enfin, est-ce que c'est une partie intégrante en fait de votre parcours ou ça arrive vraiment plus tard ?
Non, c'est partie intégrante. Alors, j'aurais dû reprendre mes notes, je ne les ai pas, mais il y avait un grand moment de questions et c'est une des premières questions qui ressort. C'est quels sont les coûts par rapport à une insémination, par rapport à une fécondation in vitro ? Combien ça coûte, quoi. Et donc, on a toutes les explications. On a aussi les explications que, en fonction du donneur choisi, le coût peut varier, en fonction de la qualité du sperme. Et voilà, c'est des choses qu'on apprend, en fait, lors de ces réunions.
D'accord. Et est-ce qu'il vous donne des statistiques un petit peu de réussite ?
Ouais, complètement. On a des graphiques. Enfin, il nous présente des graphiques. Alors après, en fonction des cliniques ou du... Voilà, ça peut varier, mais globalement, on a toujours un peu les mêmes choses avec la décroissance des résultats passés 35-36 ans et les taux de réussite, notamment sur insémination versus FIV, quel pourcentage de chance on a que ça fonctionne. De mémoire, voilà, sur là où j'en étais, j'avais à peu près 20-25% de chance que ça fonctionne pour une insémination.
Oui, d'accord. Oui, t'avais quel âge à l'époque ?
J'avais 34 ans.
34 ans, ok, en 2018. Et alors, quelle est la suite, en fait ? Une fois que vous avez fait cette réunion, est-ce qu'eux vous invitent à prendre un rendez-vous ? Est-ce qu'ils vous laissent repartir comme ça ? Comment ça se passe ?
Alors, ils nous laissent repartir avec pas mal de prospectus et des petits bonbons.
Ah. C'est toujours sympa.
Oui, c'est toujours sympa. Et puis, c'est vraiment à nous de faire les démarches. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas vers nous. Ils ne reviennent pas vers nous pour nous ressolliciter. En tout cas, moi, c'est moi qui me suis retournée vers la clinique en demandant l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est un rendez-vous individuel avec personnel médical, donc une sage-femme de la clinique, donc qui peut se faire sur place ou en visio par Skype. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc on a passé une heure avec, je précise quand même, quelqu'un qui du coup parlait français, puisque... Alors, on peut faire les rendez-vous en anglais, c'est beaucoup plus rapide en termes de délai. Et puis si on veut... Si on préfère avoir quelqu'un qui parle en français, on attend un petit peu plus, mais c'était de l'ordre de 15 jours. C'était vraiment.
Ah oui, oui, ça va, c'est raisonnable.
Oui, c'était très raisonnable. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous d'une heure avec une sage-femme de la clinique. Et on a beaucoup parlé de pourquoi, en fait, je voulais devenir maman solo, comment j'en étais arrivée là. Elle avait beaucoup de questions sur est-ce que j'étais accompagnée dans cette démarche par mes proches, est-ce que j'étais soutenue. Et puis ensuite, on a vite abordé aussi les sujets de quel était mon état de santé en termes de fertilité et puis quelle était a priori la meilleure solution pour moi en termes de parcours d'insémination ou de FIV.
D'accord. Et donc en fait, tu balayes quand même, là, tu rentres vraiment dans le cœur du sujet. Tu balayes beaucoup de sujets et tu organises la suite.
On organise la suite et en fait, suite à ce rendez-vous Skype, la balle était dans mon camp et j'avais juste à leur dire ok, j'ovule, j'arrive.
Ah oui, carrément. Il n'y a pas de stimulation ou d'examen à fournir.
En fait, c'est pour ça que je veux revenir sur mon parcours, c'est que j'ai été un peu mal accompagnée tout au début, et notamment par mon médecin généraliste qui n'était pas une spécialiste de la PMA et la clinique, qui m'ont laissée en me disant tout allait bien chez moi, j'avais aucun souci de santé, ma fertilité était bonne, et donc c'était l'option de on teste sur un cycle naturel, aucune stimulation.
Oui, donc vraiment, le plus simple possible.
Le plus simple possible, et en fait un suivi de l'ovulation uniquement avec les petits bâtons de test pipi qu'on peut acheter en pharmacie. Mm-hmm. Autant dire que c'était pas quand même l'idéal. En termes de...
Ouais, un peu route, mais bon, ça peut fonctionner, hein.
Ça aurait pu, ça n'a pas été le cas malheureusement.
D'accord.
Donc voilà, du coup, octobre, ça c'était en octobre 2018 que j'ai mon premier rendez-vous avec la clinique.
D'accord.
Et en novembre, je suis mon ovulation, je suis prête, j'y vais. Et puis le jour
direct.
Justement, peut-être pas direct. C'est-à-dire que je me suis carrément dégonflée. J'ai appelé la clinique en disant j'ovule, j'arrive. C'était un dimanche et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prête. Je savais pas où aller dormir. Je savais pas quelle compagnie aérienne il fallait que je prenne. Enfin, j'avais pas préparé.
Ah oui, t'avais pas anticipé ça.
Le backup. Alors que pourtant, je suis quelqu'un de très organisé et donc j'ai appelé ma maman au secours qui m'a dit prends le temps, annule, passe les fêtes. Comme ça, tu peux boire de l'alcool.
Aussi.
Avec modération. Et vois ça en janvier, quoi. Voilà. Donc, du coup, novembre, j'ai fait un peu machine arrière. La clinique, dans toute sa bienveillance, m'a dit aucun problème. Vous nous prévenez pour la prochaine fois. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Mm-hmm. Et puis, c'est comme ça qu'au mois de janvier, donc, j'y suis allée pour la première fois, accompagnée donc de Aurore, mon autre petite sœur, qui est venue avec moi passer une semaine à Copenhague. Du coup, on a...
Une semaine.
Ouais, c'était génial. En fait, on a visité, on s'est baladé, on a eu un temps magnifique certains jours et on a eu de la neige les autres jours, donc c'était vraiment juste parfait.
Oh ouais, tu m'étonnes, ça devait être pile le bon moment pour en profiter.
Voilà, et la seule chose qui s'est passée, donc, c'est que je suis allée plusieurs fois à la clinique, déjà pour repérer l'endroit, faire une première visite. Je suis retournée dans la semaine pour faire quand même une échographie, pour être sûre que j'avais pas déjà ovulé, parce que j'avais quand même un doute. Et puis la troisième fois pour faire l'insémination. Cette fois, c'était la bonne.
D'accord.
Voilà.
Et donc toujours en mode assez cool, sans pression.
sans pression. L'endroit, il est chouette, on est bien accueillis. C'est des trucs tout bêtes, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir chez les gynécologues en France. Et des petites couvertures pour se couvrir au lieu d'être complètement dénudé, un petit coussin pour bien se caler, une attention, en fait, tout simplement, quoi. Une attention de la part du personnel soignant.
On voit qu'ils font ça, c'est beaucoup moins finalement médicalisé, alors même si ça l'est, mais c'est beaucoup moins médicalisé qu'en France.
Je pense, oui. La pièce, elle ressemble pas du tout à un cabinet de gynécologue, quoi. C'est-à-dire que c'est une pièce décorée, il y a une petite musique zen, et donc l'insémination, elle est vraiment, c'est très rapide, hein. Et après, on peut rester une demi-heure allongée, même s'ils nous disent bien que ça sert à rien en termes de, physiquement, ça sert à rien. On pourrait se lever tout de suite, mais voilà, on peut prendre le temps aussi d'accueillir ce qui vient de se passer, parce que en termes d'émotion, c'est aussi beaucoup.
Bah oui, c'est sûr.
Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée une petite demi-heure tranquillement allongée avec ma sœur qui m'a rejoint, et puis on a papoté, et puis voilà, on a fini notre petite semaine de vacances à Copenhague avant de rentrer ensuite en France.
Ça devait être une parenthèse enchantée quand même. Enfin, je pense que tu dois avoir des souvenirs assez forts de cette période-là.
Oui. Ah, c'était assez intense parce qu'on a beaucoup marché, on en a beaucoup profité. Et aussi, moi, c'était important pour moi d'y passer du temps pour découvrir ce pays dans lequel habitait le donneur qui allait peut-être devenir très important dans ma vie en tant que donneur de sperme de mon futur enfant. Et c'est vrai que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans la rue les gens, les enfants, en me disant « Ah bah peut-être que ça va ressembler à ça » ou voilà.
C'était assez... Je crois qu'on fait tout ça.
Ouais, c'était une petite curiosité pour ce pays, ouais.
Oui, tu m'étonnes. C'est un très très beau pays. Enfin bon, je pense que ceux qui me connaissent le savent, c'est un de mes pays favoris, voire mon pays favori. Très très beau pays. Et alors tu rentres en France, après cette parenthèse ?
Oui, je rentre en France avec donc là de la progestérone à prendre pendant 15 D'accord. jours. Et puis 15 jours, bah, à me dire, c'est bon quoi. Je parlais à mon bébé, voilà, j'y crois dur comme fer. Ouais, j'y crois, d'autant plus que j'étais pas vraiment prévenue, mais que la progestérone donne vraiment des signes de grossesse, des symptômes de grossesse. C'était un peu mal à la poitrine. Voilà, des petits coups de fatigue, enfin des symptômes de début de grossesse, donc j'y croyais vraiment dur comme fer, et puis jusqu'au moment où je fais la prise de sang et qu'elle revient négative. Et là, voilà, c'est un peu une énorme déception, mais qui ne fait que confirmer mon envie d'être maman. Donc c'est presque rassurant, en fait, à ce moment-là, en me disant j'ai connu l'échec et je sais que c'est ça que je veux, donc je vais continuer dans mon parcours.
Ouais, au moins ça t'a clairement entériné dans cette décision-là, oui. Et ça t'a pas fait reculer.
C'est ça. Et ça m'a boosté juste pour cette fois prendre j'ai pris tout de suite des rendez-vous avec des médecins spécialistes de la PMA pour cette fois me faire accompagner
en France.
Voilà, pour me faire vraiment accompagner et pas me dire juste ok j'y vais avec peut-être que j'ai ovulé mais peut-être pas quoi.
D'accord. Oui, c'est sûr que c'est toujours stressant de ne pas savoir si on a ovulé, pas ovulé, même quand on est monitoré. Moi, je me souviens, mais j'étais persuadée à des moments, je me disais, mais et si j'ai ovulé avant de partir, alors que la veille, j'avais fait une écho et que c'était, enfin, je savais que c'était pas le cas, tu vois, c'est hyper stressant.
C'est très stressant, c'est vraiment très stressant.
Et alors, du coup, tu te relances. Alors, on n'a pas parlé du tout budget au Danemark, parce que je suppose quand même que c'est une composante importante du choix du mois où tu te relances.
Tout à fait. En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais mis de côté pour faire 3 essais. Je précise parce qu'il y a plein de budgets différents à prendre en compte. Dans mon cas, le cas d'une insémination avec un donneur choisi par la clinique, donc où j'avais pas mon mot à dire, à part le fait d'avoir un donneur ouvert. Et on peut aussi choisir la préférence de la couleur des yeux et des cheveux. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, c'est la clinique qui est choisie. Donc, pour un budget comme ça, enfin, pour une insémination dans ce contexte-là, il fallait compter à peu près 1 000 euros.
D'accord, oui. Ce qui est à peu près conventionnel sur les pays du Nord. Ouais.
Voilà, après, bien sûr, il faut rajouter à ça le billet d'avion, l'hébergement sur place. Voilà, voilà, c'est classique. Hein.
Complètement.
Donc, voilà, moi, je m'étais dit, je mets de côté et je fais trois essais. Donc, janvier 2019, j'essaye. Et donc, en février, réponse négative de ce premier essai. Et c'est là que je me tourne vers d'autres médecins. Et donc, c'est là qu'on peut parler rapidement du médecin pas très sympa qui m'accueille. Donc, dans un centre de fertilité, il m'accueille plutôt de manière...
Joviale.
Bah oui, en me disant oui, c'est super la PMA pour femmes seules. J'ai des copines qui l'ont fait, donc je me dis bah génial, il va être
super un allié.
Ouais, un allié. Et en fait, il regarde aucun résultat de santé que je lui avais ramené. J'avais ramené tout mon dossier. Il regarde pas du tout et il me dit bah de toute façon vu votre âge, c'est une FIV. Et il faut pas perdre de temps. Et puis, mais quand même réfléchissez bien. Est-ce que vous avez pas un copain qui pourrait vous dépanner? Voilà.
Un alors, copain qui pourrait te dépanner, d'accord, mais on n'est plus dans le même projet.
Voilà, donc je suis restée un peu bête, j'avoue, face à lui. Puis j'ai payé ma consultation et je suis partie et je me suis dit, ok, donc c'est pas lui. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et j'ai repris en fait un document super important hein, pour toutes, c'est le manifeste signé par les médecins pour la PMA pour toutes. Mm-hmm. Et en fait, je suis repartie de cette liste-là. J'ai choisi quelqu'un d'autre que je suis allée voir. Et qui a été super tout de suite, voilà, qui a tout de suite compris mon projet et qui m'a mis dans la boucle de ok, on fait des prises de sang et des échos régulièrement pour voir où en est l'ovulation et on y va comme ça quoi. Et donc là, à partir de là, c'était lancé pour la deuxième tentative.
Ouais, au moins là, tu savais que tu partais pas avec, enfin que tu partais avec des données scientifiques, on va dire, tu savais où t'allais quoi, c'était beaucoup plus clair.
Ah bah c'était beaucoup plus clair. Donc il n'y a pas eu de stimulation non plus sur cette deuxième tentative. Et la clinique et cette gynécologue-là pensaient que, voilà, vu mon niveau en fait de fertilité, vu mes résultats, il n'y avait pas besoin. Il y a juste eu une piqûre de déclenchement pour être sûr pour l'ovulation. Alors, entre-temps, j'ai quand même fait l'examen incroyable de l'hystérosalpingographie.
Le fameux.
Ça parlera, voilà. Qui s'est, enfin, bien passé. J'ai eu des bons résultats. Il n'y avait pas eu de problème. Sauf, encore une fois, là, l'échographe qui me fait la remarque de tout va bien. Hein, il suffit d'avoir des rapports 2 jours avant, le jour J et 2 jours après l'ovulation et ça sera bon. Merci, monsieur.
Mais ça marche pas comme ça.
Ouais, ça marche pas toujours comme ça. Et donc, au mois de mars, en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, janvier, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai laissé passer le mois de février avec les examens complémentaires et puis les autres rendez-vous médicaux. Et au mois de mars, je me suis lancée pour la deuxième insémination. Mm-hmm. Avec cette fois, donc, l'ovitrel. Et donc là, une journée de l'enfer, partie le matin, retour le soir, j'ai fait l'aller-retour dans la journée à Copenhague.
Tu t'es pas pris une semaine de vacances, là?
Non, bah non, parce que c'est compliqué aussi au niveau du travail de sans prévenir les chefs, je m'absente, voilà. Donc, je l'ai fait sur la journée, ça a été fatigant, très fatigant.
Ouais, c'est fatigant, et puis c'est pas forcément évident, parce que souvent, et alors particulièrement en ce moment, mais bon, ça tombait bien que ce ne soit pas en période de Covid, mais pour partir sur une journée, c'est très compliqué d'avoir un vol dans chaque sens. Hein.
Voilà, c'est ça. Bah, franchement, heureusement, donc, voilà, j'ai tout ce parcours, c'était l'année dernière, j'envoie tous mes encouragements à celles qui sont en parcours en ce moment, parce que avec la crise sanitaire, ça doit juste être un enfer, quoi.
Ben c'est ça, il y a la crise sanitaire et puis l'échéance de l'âge, mine de rien, qui avance. Enfin, parce que les années, elles passent. Cette année, elle est pourrie et qu'on voudrait qu'elle compte pas. Mine de rien, pour notre fertilité, ça joue. Donc, ouais, moi aussi, j'envoie tout mon courage. Je l'ai fait dès le départ parce que j'ai de suite pensé à ça sur le confinement. C'était les couples en parcours ou les femmes seules en parcours, très compliqué.
Très compliqué, ouais. En tout cas, à l'époque, s'il n'y avait pas ça. Et en plus, j'étais, moi, en colocation. Donc, 2 super colocs aussi qui me soutenaient et qui m'ont aidé à gérer le stress de réserver le billet d'avion. comment on fait pour faire la piqûre? Ok, on regarde les vidéos YouTube ensemble.
Ah, c'est super. Franchement, c'est super quand on est soutenu comme ça. C'est génial.
Ouais, j'ai pas été seule.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette journée de l'enfer?
Journée de l'enfer, rebelote, hein, progestérone. Et puis là, je me suis dit encore tous les symptômes, mais cette fois j'étais prévenue. Et en fait, j'ai complètement craqué sur ce cycle-là. J'ai fait plein de tests de grossesse. Je sais pas combien j'en ai fait, mais beaucoup. Et à chaque fois, ils étaient négatifs et je me disais non, mais c'est parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment demandé à mon corps de m'envoyer un signal fort parce qu'il fallait vraiment que je sache. Et finalement, mes règles sont arrivées. J'ai pas eu besoin de faire la prise de sang. Voilà, j'ai eu ma réponse comme ça. Donc, ça n'avait encore pas fonctionné.
Ouais.
Et donc là, ça a été encore plus dur que la première fois parce que. J'avais tout donné, c'est-à-dire j'avais fait plein d'examens, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait comme il faut. Et il y a une sensation un peu bizarre, c'est vrai que je l'ai beaucoup dit à l'époque, c'est d'être trahie par mon propre corps. C'est-à-dire je suis en bonne santé, tout va bien, je fais tout ce qu'il faut et ça marche pas. Et c'est un peu...
Oui, c'est là où dans nos parcours, en fait, on oublie que quand tout va bien, qu'on fait tout ce qu'il faut, il n'y a que 25% de chance que ça fonctionne. Et du coup, on se sent trahi, ouais, effectivement. Ouais. On a l'impression que, ouais, qu'on a fait quelque chose de travers, mais en fait, non. C'est juste qu'il y a une chance sur quatre de tomber enceinte quand tout va bien.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'ai relativisé grâce à ça. C'est, en fait, en parlant même avec des amis hein, qui sont en couple, qui ne sont pas tombés enceinte forcément le premier mois. Évidemment, il y en a d'autres pour qui ça fonctionne tout de suite et du coup, on se dit, mais moi aussi, ça aurait pu. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Là, j'ai laissé passer donc encore le mois d'avril. Cette fois-ci, je me suis tournée vers encore un autre parcours, c'est le parcours de sophrologie. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a accompagnée, sophrologue spécialiste PMA, qui elle-même a eu ses enfants par une PMA. C'était super.
C'est souvent que j'entends parler de la sophrologie dans les parcours de PMA. C'est vrai que moi, ça ne me parle pas plus que ça, mais je pense que ça peut être une vraie aide. Tu peux nous raconter un petit peu, nous expliquer ce que c'est ?
Alors, je pense qu'il y a pas mal de sophrologies différentes. Au final, la personne que j'ai été voir, sur une heure de rendez-vous, on faisait plutôt parler pendant une bonne demi-heure. C'est-à-dire, je racontais mon parcours, où j'en étais, vraiment dans une bienveillance extrême. Et sur la deuxième demi-heure, elle m'accompagnait, donc c'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux et puis elle te fait sentir de tes bouts de doigts à tes bouts de doigts de pied, chaque partie de ton corps. Elle t'accompagne en fait par la voix, une petite musique douce. Et comme elle est spécialiste donc en PMA, on vient entre guillemets regarder ce qui se passe dans l'utérus, qu'il est accueillant, que voilà, tout va bien, qu'il y a un bébé qui va arriver incessamment sous peu dedans, qu'il faut avoir confiance en son corps. Enfin, c'était une première pour moi, voilà. Mais j'ai trouvé en tout cas une oreille attentive et je pense que autant la partie où je discutais avec elle que cette partie un peu plus de introspection sur soi-même, les deux en fait me faisaient beaucoup de bien. C'était quelqu'un d'extérieur, c'était pas quelqu'un de mon entourage. On dit des choses différentes en fait à quelqu'un comme ça.
Oui, tout à fait, c'était une oreille attentive et c'est vrai que souvent, c'est bien d'avoir une oreille extérieure pour pouvoir déverser tout ce qu'on a à dire.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Et donc du coup, tu repars sur un troisième cycle, tu arrives à dépasser cette frustration ou cette déception.
Je dépasse ça en me disant que je m'étais dit de toute façon trois essais et que donc il me reste une chance. En me disant en fait, si je vais être tout à fait honnête, que je suis tellement persuadée de vouloir être maman qu'en fait j'irai au-delà de trois fois.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est ok, il te reste une chance, mais comment tu le vis? Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a?
En fait, je le vis en me disant, j'accepte, je laisserai passer plus de mois, je remettrai un peu tout de côté, mais en tout cas, c'est sûr que je ne m'arrêterai pas là.
Ouais,
c'est ça. Et en parallèle, il y a quelque chose qui se débloque aussi, c'est je me dis, bon, je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, je sais que tout va bien, mais est-ce que, s'il vous plaît, je peux avoir une petite stimulation quand même?
Ouais, tu leur demandes, c'est ça vient de toi là.
Ouais, ça vient de moi en fait, parce que bah justement suite aux discussions sur les forums là où on me dit mais ça peut aider en parallèle de ça, c'est aussi accepter la chance ou le risque en fonction d'avoir des jumeaux.
Oui, tout à fait.
Alors autant pour les deux premières inséminations, j'étais vraiment effrayée à l'idée d'avoir deux bébés d'un coup, autant pour la troisième, je me suis dit en fait vous arrivez à deux, ok, je suis prête, je vais gérer. Arriver à deux, mais arriver quoi. Et du coup, cette troisième insémination, donc au mois de mai l'année 2019, donc l'année dernière, avec une stimulation et puis toujours le suivi avec prise de sang et puis échographie régulière pour voir le développement. Mmh. Et donc on tente cette troisième insémination.
Pareil, tu repars sur une journée rush.
Alors là, non, je l'avais fait différemment cette fois-là. J'étais partie la veille au soir. J'ai redormi dans la même auberge de jeunesse où on était allé la première fois quand on avait passé la semaine. Donc, un peu en terrain connu, c'était aussi rassurant. Et j'avais l'insémination prévue le lendemain matin. Et je rentrais par contre directement dans l'après-midi. Et donc j'ai pris le temps ce matin-là c'est tout bête, hein, mais juste de prendre un bon petit déjeuner à l'auberge de jeunesse avant d'aller à la clinique pour me dire allez, je prends des forces et puis voilà. Mm-hmm. C'était une belle journée, mais comme toujours à Copenhague, hein, franchement les gens sont adorables partout. Et donc voilà, du coup j'étais à la clinique et puis je suis rentrée l'après-midi, j'avais posé bien sûr ma journée et je me suis mis dans mon lit, sous ma couette et me suis reposée en fait tout le reste de la journée après, en me disant allez,
Tu mets toutes les chances de toi.
Ouais, voilà. C'est peut-être un peu naïf, mais en me disant, je mets toutes les chances de mon côté, je prends soin de moi pour me donner les chances que ça fonctionne. Et puis, bah, là, encore pareil, du coup, reprogestérone, donc encore des symptômes, mais des symptômes un peu différents. Et je me dis, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, enfin, je me posais beaucoup de questions, tout en me disant que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon. Et puis, au moment de faire le test de grossesse, en fait, donc, ma sœur Aurore, qui était venue avec moi à Copenhague, était avec moi à Paris. C'était un peu la boucle était bouclée, c'est-à-dire que j'ai été faire le test avec elle à côté et il est revenu positif.
Ah, super.
Donc là, c'était voilà, c'était test positif, grande joie et prise de sang dans la foulée. Et ça tombait vraiment super bien, c'est-à-dire que j'ai fait ma prise de sang le matin et l'après-midi, je rejoignais ma maman et ma mamie. Et donc, j'ai eu les résultats avec elle, qui étaient positifs. Donc, c'était officiel, j'étais enceinte.
Ah, super. Et du coup, tu leur as dit tout de suite.
Oui, bah, de toute façon, c'est vrai que j'ai pas eu cette annonce trop mignonne, tu vas être grand-mère ou, voilà, c'est parce que elles étaient au courant du parcours et elles savaient exactement le jour où j'étais partie et quel jour les résultats allaient arriver, en fait. Donc, il n'y a pas la surprise, mais un énorme contentement. Ouais.
Ouais. C'est vrai que dans nos parcours, c'est un peu plus compliqué hein, de gérer de gérer le côté surprise.
Ouais, c'est ça.
Et alors, du coup, comment se passe ta grossesse? Est-ce que tu es accompagnée toujours de façon aussi bienveillante avec, par les professionnels de santé? Parce que je suppose que quand tu te présentes à une échographie, alors encore une fois, actuellement, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, je pense que quand tu te présentais seule à une échographie, on devait te poser des questions, non?
Oui, 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 tout à fait. Bah alors, en fait, les toutes premières échographies que j'ai faites, je les ai faites au cabinet de ma gynécologue qui m'avait suivie pour la PMA, mais spécialiste de la PMA. Donc, en fait, elle accompagne que les deux premiers mois de grossesse. La toute première écho que j'ai été faire, j'y suis allée avec ma coloc et on a entendu du coup le petit cœur battre pour la première fois. C'était hyper émouvant. Franchement, c'était vraiment très, très, très émouvant. Et c'est vrai que par contre, je me suis retrouvée un petit peu bête après et j'avais vachement préparé comment réussir à tomber enceinte. J'ai beaucoup préparé sur après, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant, comment je vais l'accompagner dans la vie en tant que maman solo. Et j'avais pas du tout préparé la grossesse, les 9 mois entre les deux. J'étais un peu naïve en me disant
c'est marrant, d'habitude c'est plutôt l'inverse.
Oh non, mais c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi, je naïvement, voilà, je m'étais dit, bah, c'est le truc facile, en fait. Donc, j'avais pas du tout préparé ça. Et je me suis retrouvée un peu pris de court à trouver, un accompagnement pour la grossesse. C'était un peu bizarre. Mais globalement, donc, toutes les échos où je suis allée, donc, j'y suis toujours allée toute seule après les échos de chaque trimestre. J'ai toujours été honnête sur le fait qu'il y avait pas de papa. De toute façon, à chaque fois, la question est posée. Mm-hmm. Et j'ai jamais eu de remarques désobligeantes.
D'accord, ouais, c'est chouette. Moi, je pense que de toute manière, pour les professionnels de santé, ce sont quand même des situations qui sont relativement courantes. Hein. Finalement, ils sont plus au même et plus au fait que nous des typologies de familles qui peuvent exister.
Oui, c'est sûr. Ils doivent voir défiler pas mal de cas et
de compositions familiales différentes.
Ouais, ouais. Donc non, j'ai jamais eu de jugement. Alors après, la grossesse, elle s'est super bien passée. Et puis, par contre, j'ai eu, je pense, des désagréments, mais qui sont pas du tout liés à ma situation familiale, c'est-à-dire que j'ai parfois eu du personnel médical pas toujours bienveillant, mais ça c'était pas du tout par rapport au fait que je sois seule. C'était plutôt dans le stress de leur propre journée, voilà.
Ah, complètement. Et alors, du coup, tu as accouché toute seule ou tu as accouché accompagnée?
Alors ça c'était pour moi à Paris, donc j'ai fait tout mon suivi à Paris, une maternité parisienne, mais en ayant en tête que c'est pas là que j'accoucherai. Donc j'ai fait mes cours de préparation à l'accouchement toute seule, donc ça c'était un peu bizarre. Mais par contre, au moment de Noël l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, je suis rentrée chez ma maman, là où sont aussi mes deux sœurs, enfin qui habitent pas loin en tout cas. Et l'idée c'était du coup d'accoucher dans la maternité où je suis moi-même née à l'époque, enfin, en tout cas la même ville, et accompagnée. Donc j'ai fait un projet de naissance. Et dans ce projet de naissance, mon idée c'était qu'il se soit le moins médicalisé possible pour un peu contrebalancer la période PMA, en fait. Enfin, c'est un peu, voilà, donc pas de péridurale, ouais. Un accouchement voilà, le plus naturel possible. Alors, pas à la maison quand même, parce qu'on est un peu trop loin de la maternité, mais voilà, le plus...
physiologique possible.
Le plus physiologique possible. Et donc, le plan était simple, et c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est avec ma maman et ma sœur, on était toutes les trois à la maison quand le travail a commencé, et ce sont elles qui m'ont accompagnée à la maternité, et mm-hmm. où mon autre sœur, donc celle qui a déjà qui a eu ma nièce, je veux dire, c'est elle qui m'a en fait accompagnée après dans la salle d'accouchement. C'est elle qui m'a accompagnée pendant tout le travail. C'est elle qui a coupé le cordon. Voilà, c'était un super moment, franchement.
Une vraie sororité. Ouais. C'est une vraie.
Ouais, on est une équipe de filles, ça mais on se soutient et c'est une belle histoire. Donc voilà, c'était un très beau moment, donc un peu plus tôt que prévu. Ça a été un peu l'aventure. Ma valise de la maternité n'était pas prête, donc justement ma maman et Aurore ont préparé mes affaires pendant que je gérais tant bien que mal mes contractions à la maison. Et en fait, quand on est arrivé après à la maternité, je m'excusais à l'avance auprès du personnel, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que c'était une lune à ce moment-là, ce week-end-là, et tout le monde avait décidé d'accoucher. Et moi, je me disais, non, mais j'ai 3 semaines en avance, si ça se trouve, c'est une fausse alerte, je vais rentrer chez moi, je suis désolée de vous embêter et tout. Et en fait, quand elles m'ont examinée, j'étais à dilatation complète. Donc,
ah oui, carrément. Pour un premier, c'est...
Oui, c'est ça. En fait, Garance est arrivée 1h30 après que je sois arrivée à la maternité.
Eh ben, au moins, t'as pas vu passer ton accouchement.
Non, ouais.
Pour un premier, c'est dingue. Enfin, si jamais tu veux un deuxième...
Ouais. Bon, après, j'avoue que le travail avait commencé dans la nuit et que je l'ai géré comme j'ai pu, je pense, toute seule.
Ouais, tu t'es pas précipitée.
Non, je me suis pas précipitée.
D'accord. C'est super, ça. Et alors, comment ça s'est passé, l'arrivée de Garance? On te l'a donné... Enfin, donc, ta sœur a coupé le cordon, on te l'a mise sur toi.
Mm. Et ensuite... après, écoute, ça a été un peu... Il y a eu un petit moment de latence parce que j'ai découvert le mot éraillure. Donc, c'est, je pense, le nouveau terme pour déchirure.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Donc, le temps de réparer tout ça, Garance était en peau à peau sur moi. Et puis, ensuite, la première tétée, la tétée d'accueil. Ensuite, on nous a laissé un petit peu tranquille. Et puis, on a rejoint la chambre tranquillement. Du coup, le reste de ma famille, donc ma maman et mon autre sœur, sont revenus voir et accueillir ce nouveau membre de la famille. Après, c'est vrai que du coup, j'étais à la maternité toute seule, donc j'ai eu beaucoup de des visites donc de mes sœurs, une amie aussi qui habite pas loin qui a pu venir me voir, ma nièce évidemment qui était ravie de découvrir sa cousine.
Ouais, je me doute. Et alors, ça a pas été trop difficile les premiers jours toute seule, notamment la nuit. Enfin, moi, je me souviens que la nuit, c'était.
Si. Je me suis retrouvée sur le siège de la maternité en essayant de mettre Garance au sein, à pleurer toute seule au milieu de la nuit. Mais un personnel médical qui m'a quand même accompagnée dans ce projet d'allaitement et qui m'a aidée à trouver des positions un peu plus confortables, voilà, qui m'a pas mal aidée. Donc, j'avoue qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Malheureusement, l'allaitement, il a été très compliqué pendant 2 mois et demi. J'ai vraiment eu des grosses douleurs avec des crevasses. Ça a été un peu l'horreur, mais je me suis accrochée et voilà, ça a marché. Je l'allaite encore, donc ça c'est plutôt chouette.
Super. C'est une super histoire. Ça vaut le coup de s'accrocher des fois. Hein.
C'est, en fait, voilà, maintenant que on a tellement galéré au début que voilà, maintenant on continue. Tant qu'il y a du lait, on continue.
Ouais, je comprends complètement. Je comprends complètement.
Mais c'est vrai que en tout cas, la maternité, ça n'a pas toujours été facile.
Ouais. Et même les premiers mois de bébé, ça n'a pas dû être simple.
Voilà, les premiers mois, ça a été peut-être les plus intenses. J'ai découvert en fait ce que c'était que d'être maman. Et heureusement, j'ai passé mon congé maternité chez ma maman, donc avec un appui incroyable de sa part. Mmh. Sur la logistique, en fait, hein, juste, j'ai pas eu à me préoccuper de faire des courses, de faire à manger, même les lessives, enfin, c'est quand même.
Ça change beaucoup de choses.
Ça change beaucoup, je pense, ouais. Donc voilà, ouais. Un super accompagnement de sa part et de la part de mes sœurs aussi, bien sûr. Mmh. Aussi un soutien pour Garance, parce que c'est vrai que comme beaucoup de bébés, elle a eu besoin de beaucoup être portée, beaucoup en contact. Et donc, j'ai passé des heures et des heures avec elle dans les bras. Mais bah, des fois, il faut prendre une douche, il faut faire d'autres choses. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle a pu passer aussi 3 heures à dormir sur mamie, qui a beaucoup lu pendant cette période, du coup. Et c'est tombé au moment du confinement, donc du coup, voilà, de l'aide à la maison. Enfin, en tout cas pour moi, c'est bien tombé finalement.
Ouais, c'était pas trop anxiogène le contexte, parce que c'est vrai que quand t'as un tout petit, que tu sais pas s'il a.
Oui, bah il y avait un côté anxiogène et en même temps on était donc à la campagne hein, chez ma maman. C'est voilà, on a la forêt à côté, on voyait. Enfin, là, ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas vu grand monde, évidemment. Mais je veux dire, ça n'a pas changé mon quotidien entre juste avant le confinement et après, parce que j'étais de toute façon dans ma petite bulle avec Garance. Donc voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Ça change beaucoup plus maintenant. Et donc, je devais reprendre normalement le travail pendant le confinement. Et en fait, le contexte, le fait qu'elle soit finalement si petite, enfin. C'est avant qu'elle arrive, je m'étais dit bien sûr, à 3 mois, je la mettrai en garde, bien sûr.
On dit tout ça.
Et puis après, en fait, hors de question, quoi. Donc j'ai posé un congé parental et j'ai repris le travail seulement au mois de septembre.
D'accord. Donc, et là, t'as dû t'organiser au niveau logistique parce que du coup, c'est toi qui gères tous les trajets, tout, enfin.
Oui, ouais, ouais, bah tout à fait. Bah du coup, comme je te le disais tout à l'heure, là, j'étais en colocation, donc pendant ma grossesse, ce que j'ai dû faire, c'est trouver un appartement pour être dans une nouvelle colocation, mais uniquement avec ma fille. Donc on a géré, pareil, j'ai eu beaucoup d'aide de mes amis et de ma famille. Donc j'ai trouvé un appartement avec de l'aide qui est à 15 minutes à pied de mon travail.
Donc, d'accord.
Voilà. Et de l'aide pour le déménagement, pour l'installation des meubles. Donc ça, c'était vraiment super. Et après, évidemment, recherche d'un moyen de garde. J'ai eu la chance d'avoir une place en crèche. Je pense liée à ma situation hein, de ce qu'ils appellent parents isolés, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a une place en crèche qui est pareil dans le périmètre. En gros, je fais tout à pied. En 15 minutes, je peux déposer Garance et être au travail.
D'accord, ça c'est génial. Franchement, quand t'as tout à côté, c'est vraiment génial. Enfin, de toute manière, il fallait pour vous et votre bien-être que ça se passe comme ça.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est en termes de qualité de vie, on réduit le temps dans les transports, ce qui en plus, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, est d'autant plus appréciable. Je fais tout à pied. Voilà, c'est. En tout cas, ça se passe très bien. Et l'accueil à la crèche, j'avais très très peur de plusieurs choses. J'avais déjà peur de la laisser, de la séparation. J'avais peur de l'accueil qu'on allait faire face à ma situation de maman solo. Et puis finalement, tout s'est bien passé.
Ah bon, ça c'est super, mais ça m'étonne vraiment pas. Et tout à l'heure, justement, je rebondis parce que tu me disais que tu avais préparé l'après-grossesse, la croissance de ta fille et donc les questions qui se poseraient à ce moment-là, mais pas ta grossesse. Et alors, qu'est-ce que tu avais préparé? Comment tu prévois de lui expliquer votre situation familiale?
Bah ça, c'est vraiment une grosse question d'adapter le langage en fonction de l'âge qu'elle a aussi. Sur les. Donc là, je reviens à l'association Maman Solo dont je parlais tout à l'heure, c'est une mine d'informations et de bons conseils sur ça, parce qu'il y a dans cette association des mamans qui sont mamans solo depuis plusieurs années, qui ont des grands enfants, donc qui peuvent avoir le recul nécessaire pour nous aider en fait en tant que jeune maman. Donc ça, c'est super. Et en gros, je pensais un peu que j'allais tout de suite parler à Garance de sa situation. En fait, pas du tout. C'est-à-dire, je lui rabâche pas tous les jours. Il y a que maman. C'est plutôt que j'en parle naturellement, qu'elle soit là ou pas. C'est pas un secret. Tout le monde est au courant. Et puis pour elle, j'ai des livres en fait, des livres adaptés aux tout petits. Ce que je fais, c'est que voilà, je cherche beaucoup de livres où il n'y a pas forcément le papa dans l'histoire.
D'accord.
C'est pas toujours facile à trouver.
Ouais, tu m'étonnes.
Et puis sinon, juste des livres en fait qui racontent la vie normale qu'on pourrait acheter à n'importe quel enfant, mais où juste il n'y a pas le papa dans l'histoire.
Ah ouais, mais c'est ça, c'est top.
C'est voilà, c'est juste de l'habituer au fait qu'il y ait plein de schémas familiaux différents et que dans les livres on les retrouve. Et en fait, en cherchant, il y en a peut-être pas assez, mais ça existe.
Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le meilleur moyen finalement, c'est de ne pas faire mystère de la situation et même d'en parler sans évidemment rabâcher l'enfant en permanence que sa situation est une situation particulière. Je pense que ouais, ça. Enfin bon, pour le moment, elle est petite, donc tu peux pas te rendre compte. Mais en tout cas, vous avez l'air de très bien assumer cette situation et ça a l'air de très bien se passer pour vous.
Non, ça se passe bien. Elle est incroyable. Alors, je suis pas du tout objective, évidemment, c'est ma fille.
Oui.
Mais elle est vraiment super, quoi. Enfin, voilà.
Alors moi, j'ai une dernière petite question, parce que du coup, tu me dis que tu prévois toujours de rencontrer, enfin, en tout cas, tu laisses la place à quelqu'un de pouvoir rentrer dans votre vie. Comment tu imagines l'arrivée d'une personne dans votre vie, quelle qu'elle soit, et la relation que pourrait avoir ta fille avec ?
Ouais. Ça, en fait, bah, avant que Garance arrive, je m'étais dit que j'allais pouvoir rencontrer quelqu'un, mais je me rends compte maintenant que... Enfin, j'ai toujours cette envie de rencontrer quelqu'un, mais très concrètement, je vois pas là comment je pourrais faire, surtout avec le confinement 100% télétravail.
Elle est petite en plus. Hein.
Et elle est très petite. Concrètement, à Paris, moi, j'ai pas ma famille juste à côté pour de toute façon la garder une soirée, le temps de sortir. Donc, ce que j'imagine, en tout cas, c'est un peu plus tard, quand elle pourrait être un peu plus grande, c'est de pouvoir prendre une babysitter. Je sais, petite dédicace aux amis d'Aurore, si elles écoutent ce podcast, qu'il y en a plusieurs qui sont motivés pour garder Garance. Et voilà, rien que de pouvoir ressortir avec les amis au restaurant ou aller voir un film au cinéma, ça serait vraiment super, déjà, dans un premier temps. Et ce que j'imaginais, en fait, c'était surtout rencontrer quelqu'un et puis continuer à agrandir ma famille, parce que je me suis jamais vue avec un seul enfant. Moi, j'ai deux sœurs et la fratrie, la sororité, c'est pour moi indispensable.
Oui, complètement. Et du coup, tu projettes d'agrandir ta famille coûte que coûte, c'est-à-dire avec quelqu'un ou sans quelqu'un, ou si tu agrandis, tu agrandiras avec quelqu'un.
Bah écoute, il y a quelques mois, je t'aurais répondu avec quelqu'un. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai réservé des paillettes du même donneur que Garance pour faire un deuxième bébé. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a la possibilité. Si je rencontre quelqu'un, eh ben pourquoi pas. On verra à ce moment-là. Et puis, si je rencontre pas quelqu'un, d'ici, je sais pas trop les délais, je me suis pas fixé de délai, mais peut-être dans un an et demi, deux ans, me lancer dans un deuxième projet de grossesse avec ce même donneur.
Je te le souhaite. Dans tous les cas, de toute manière, je te souhaite d'agrandir ta famille si c'est ton souhait. Franchement, je suis ravie d'avoir découvert ton histoire, votre histoire. Je trouve que c'est hyper puissant. Tu es une femme forte, tu as des envies, tu les réalises. Tu t'arrêtes pas, en fait, à des idées reçues ou à ce que pourrait penser la société, en fait, d'une famille qui ne serait pas conventionnelle. Tu as réussi à t'affranchir de tout ça. Et je trouve ça, mais vraiment... extraordinaire. Enfin, voilà, on est tous très forts hein, dans nos compositions familiales telles qu'on les a tous, mais j'ai vraiment apprécié découvrir ton histoire.
Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est une histoire. Juste un truc important, c'est d'être maman solo, mais loin d'être seule. Et ça, c'est ce que je rabâche tout le temps, en fait. Oui, je suis maman solo, mais je suis entourée de gens incroyables, que ce soit ma famille ou mes amis, qui sont tous dans la bienveillance, qui adorent Garance. Et voilà, ça, à chaque fois, ça me fait vraiment ça me fait chaud au cœur.
Mais c'est ce qu'on retient hein, vraiment de ton histoire, c'est que oui, effectivement, t'es maman solo parce que c'est toi qui as fait ton bébé toute seule, on va dire. Mais par contre, t'as un village autour de vous qui vous accompagne et qui vous guide. Et finalement, c'est ta famille aussi. Enfin, c'est une famille élargie.
C'est ça, exactement.
Je te remercie beaucoup, Hélène, de t'être rendue disponible encore une fois. C'était vraiment super chouette. Je pense que ça intéressera de nombreux auditeurs. C'est vrai que je traite pas encore assez le sujet des mamans solo et même des papas solo. Faudrait que j'arrive à traiter ce sujet-là. C'est une grande partie des compositions familiales qui existent alternatives, on va dire, actuellement. Et aujourd'hui, je pense que tu as contribué à éclairer des futurs auditeurs, enfin, en tout cas des auditeurs qui deviendraient des futurs parents solo.
À ton mieux.
Merci beaucoup, Hélène, à bientôt.
Merci, Constance, à bientôt.
J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter l'histoire d'Hélène et Garance, tellement que j'ai eu envie de lui proposer instantanément de nous retrouver pour avoir son ressenti un an après la naissance de Garance. Nous n'avons pas encore réussi à trouver un créneau, mais ça ne saurait tarder. Je trouve admirable cette force qui permet d'abattre tant d'idées reçues et de déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs. Vous me dites ce que vous en avez pensé sur le compte du podcast « Les enfants vont bien podcast ». Je vous redis ou pas les actions de soutien du podcast. Vous pouvez, au choix, mais tous les choix sont cumulables, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, partager l'épisode sur les réseaux sociaux ou me laisser un commentaire toujours sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie pour toutes ces actions de votre part.
Je vous dis à vendredi prochain pour une rediffusion d'un épisode clé de la saison 1 qui va vous donner le tempo de cette fin de saison 2. Et oui, j'ai pris le parti sur mes congés de vous proposer des rediffusions. Vous vous souvenez ? À vendredi prochain. Less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.